À présent, je peux bouger ma main droite et je tente tout doucement de me détacher de cette époque-là. Pas à pas, je m'en échappe pour pouvoir pousser ma charrette jusqu'au bout avant qu'on me claque les portes et les fenêtres à la face. Avant que le joueur ne revienne avec ses congénères et qu'ils se mettent à réclamer mes faveurs et à se ruer vers mon cher petit endroit, cette demeure, ce gîte qu'ils se disputaient. Il y en a un qui s'est penché si bas qu'il a frôlé mon visage. Chaussures luisantes neuves comme repasser ce crissement que font les cuirs neufs dans les oreilles. Pantalon gris foncé, j'ai pu distinguer la nuance dans la pénombre où l'on m'avait mise. Les plis du pantalon très nets comme s'ils venaient d'être repassés. Tissu raffiné de flanelle anglaise. J'y voyais encore bien malgré les contusions que j'avais aux yeux, à la mâchoire et le long du cou. D'une main, il m'a soulevé la tête de plus en plus haut, à travers le pull, les larmes desséchées, les silhouettes nébuleuses, j'aurais pu le retourner et le plier devant moi comme lui faisait en cette heure troublante, suspendu entre l'éveil et la somnolence. C'étaient des vêtements de civil, propres et délicats. Sa main était parfumée et même tout son avant-bras. Quand il avançait ses doigts vers mon visage, des effluves pénétraient le fond de mon nez, une odeur de tabac enivrant, fraîchement cueilli, roulé, allumé, un relent de sang, de vrai sang, tranquille et suave, mêlé à une eau de Cologne entêtante. Tabac, sang, parfum. Tout cela s'imprimait dans mon esprit et me rappelait une vieille soirée dansante. Il a tourné ma tête pour l'orienter face à la sienne, puis s'est accroupi à ma hauteur. L'odeur m'encourageait à l'observer et à me détendre malgré les minces fils de fer qui me liaient les mains et les pieds. D'un geste affectueux, il a pris ma tête dans sa main gauche et de l'autre, il a sorti un briquet et s'est mis à examiner mes traits derrière la flamme. J'ai aussitôt fermé les paupières. Il s'est tellement rapproché qu'il a failli brûler mes cheveux plaqués par la sueur. Sa veste aussi était d'un modèle soigné, élégant. J'entendais battre son pouls à travers le mouvement de sa main sur ma tempe. Il me regardait d'un air narquois, sagace, hostile, tout cela à la fois recouvert d'indifférence. Il était plein de ces événements inédits, graves, inattendus que nous venions de vivre et allions continuer à vivre l'un comme l'autre. Voilà celui qui serait mon compagnon durant ces heures-là. Un bel homme, prévenant, parfumé, charmant, un homme de goût. Tandis qu'il était là, allumé, éteindre cette flamme sur toutes les parties de mon corps, je songeais que si je lui avais demandé, il m'aurait sans doute prêté de l'argent sur le champ. Ensorceleur, mais sans voix. D'ailleurs, moi non plus, je n'avais plus de voix. J'avais le souffle en lambeaux. Le sien, en revanche, jaillissait à grandes bouffées. Même les cris et les gémissements que j'écoutais avec attention à mon arrivée ici s'étaient évanouis. De ses deux mains, qui avaient l'air de ne pas être les siennes, ses mains sont capables d'étreindre. Il m'a hissé par les épaules, j'ai senti l'espace s'agrandir et un instant, je me suis vue prendre doucement de la hauteur, bondir, puis m'envoler comme une mouette. Captivante ses mains, en effet. Tiens-toi, moi, ne te raidis pas. Lève-toi, je vais te détacher. Mais je me suis effondrée sur lui, fondant une fois de plus jusqu'au sol nu où je me suis écrasée. On aurait pu croire que nous étions de vieux amis ou on passe de le devenir. L'attirance est le début du rapprochement, n'est-ce pas? Mon épaule n'était pas encore déboîtée. Il s'est mis à m'appeler par ces doux noms que j'exècre. Sa poire. Sa pierre. Il m'a tâté pour délier mes poignets, puis il est passé à mes jambes. et il m'inspectait à la perfection comme s'il voulait m'entraîner à un nouveau type de sport.
Merci Farida Rawal. Bonjour, merci d'être là pour cette rencontre avec Aliam Abdou. Bonjour. Et bonjour à Nisrine Alzar, qui, merci d'avance, vous allez être la voix française d'Aliam Abdou. Alors, on vient d'entendre les premières pages de La Garçonne, un roman qui a été publié en 2012 en français chez Actes Sud, dans une traduction de Stéphanie Dujol. Aliam Abdou, vous êtes née à Bagdad, en Irak, vous êtes devenue journaliste là-bas, et puis vous avez vécu à Beyrouth, à Rabat, aujourd'hui à Paris. Vous écrivez en arabe, vous êtes l'auteur de recueils de nouvelles et de 8 romans, et La Garçonne est le troisième à être traduit en français. Avant ça, il y avait eu La Naphtaline en 1996 et La Passion en 2003. Alors La Garçonne, on l'a entendu, c'est une narratrice. Elle est en train d'écrire le roman que nous, on est en train de lire, et elle se souvient. Elle se souvient de ses années d'études, de ses amis militants politiques, et surtout du coup d'État de 1963 à Bagdad, qui lui a valu d'être arrêté et torturé, c'est ce qu'on a entendu. Alors c'est ce qu'on a entendu dans l'extrait. Alors pourquoi vous avez voulu aujourd'hui revenir sur ce coup d'État de
1963
أشكر جمعية الأصدقاء المعهد العالم العربي اللي أعادت الأكسجين إلى هاي الرواية اللي صار لها 5 سنين هي صادرة وأعادوا حياة إلها فأنا مدينة لهم جدا ومدينة المعهد ومدينة لهذا اللقاء.
Donc tout d'abord, j'aimerais bien remercier l'Association des Amis de l'Institut du Monde Arabe qui a rendu un peu l'oxygène à cette activité depuis 5 ans. Donc l'activité des rencontres littéraires, j'imagine, c'est ça? Les liqa'at al-adabi, je peux dire.
Ah.
OK. Voilà.
الان ليش انا رجعت الى النادي الاولمبي للانقلاب؟ قبل الانقلاب الرواية تتحدث عن مرحلة خطيرة ومفصل خطير في الدولة العراقية بال 63 حصل انقلاب 63 وبقى 9 أشهر في هذه المرحلة كان هناك ميليشيا اسمها الحرس القومي كما هي الميليشيا الموجودة الآن
Donc il faut dire que le roman parle d'une période très dangereuse et qui a constitué vraiment un carrefour, un point dangereux dans l'histoire de l'État irakien. Donc en 63, donc il y a eu lieu ce coup d'État qui a duré 9 mois. Et pendant cette époque, il y avait les milices de milice al-Haras al-Qawmi, des gardiens nationalistes.
Voilà. La roi, en particulier, de son nom à la dernière parole, c'est une roi. كان فيها كمية من القسوة في أثناء الكتابة في أثناء السرد يعني هاي القسوة كانت تماشي أو تشدد على قسوة الوقائع الرسمية اللي حصلت.
Donc depuis le titre, depuis le seuil, l'incipit de ce roman jusqu'au dernier mot, donc il y avait beaucoup de brutalité, beaucoup de dureté dans la narration. Donc cette dureté à l'image de la brutalité et de la dureté des faits réels qui ont eu lieu en Irak.
Rouaïa mouni'at de toutes les pays arabes, ma'ad à Beyrouth, et ma'zalat madnou'a. ممنوعة من العراق طبعا وهي تقرنص وتطبع عشرات المئات المرات ممنوع أن تعمل منها دراسات عليا رواية ملعونة يسموها بالنسبة للبلد، قصة ثلاث فتيات، صبيحة اختصبت لأن وكانت يسارية وأتها اهتمامات ثقافية كثيرة، وهجران جنت، وهدى فرت.
Okay. Donc c'est un roman qu'on appelle le roman maudit, donc qui a été censuré, interdit dans beaucoup de pays, à l'exception de Beyrouth. Donc il a été interdit en Irak, bien qu'elle soit piratée et imprimée des milliers de fois. Il est interdit également qu'elle fasse une matière des études supérieures littéraires. Donc ce roman maudit, elle raconte l'histoire de trois filles. Sabiha, qui a été violée, donc c'est une militante de gauche et qui a des activités intellectuelles et culturelles. Hujran, qui a perdu la tête, et puis Huda, qui a pris la fuite du pays.
اللي أحبت الشيوعي اختصبت وقتلت في ختام الرواية، واللي أحبت البعثي أيضا جنت ودخلت المستشفى الأمراض العصبية. يبدو الحب العراق يجنن أو يعني يأخذ إلى مديات قصوى بالأذية والقسوة، فيمكن ممنوع الحب يعني جائز.
Je vais traduire. Donc celle qui a aimé le communiste, elle a été violée et puis à la fin du roman elle a été tuée. Celle qui a aimé le bassiste, elle a perdu la tête et puis elle a été internée. Donc il s'avère que l'amour en Irak en fait fait perdre la tête ou prend des dimensions très nuisibles.
Continue.
Mais vous nous avez dit qu'il a été censuré. Est-ce qu'il a été censuré pour son contenu ou déjà pour ce titre, La Garçonne, qui est en soi très surprenant?
منعت بسبب المضمون ولا بسبب العنوان الغلامة؟
الرواية كتبت ونشرت في أثناء نظام صدام حسين، فهي موجودة يعني في طلعت بال 1999 وطبعت في 2000، وكانت مشكلة أيضا حتى في الطبع لأن دار الآداب طلبت أن أغير أشياء أو أمسح أشياء وأنا رفضت. بعدين الصديق الشاعر الكبير أدونيس اقترح علي الساقي وهو أخذها للساقي، والساقي كانت مجازفة منعتها من مي خصوب أن تصدرها بسرعة، وطلعت بالألفين وكان النظام موجود.
Okay. بس يعني بمعنى انه بالمضمون ولا العنوان؟
اكيد لا، مضمون الغلامه سبب العنوان راح نتحدث عنه.
Oui.
سبب اشكال.
Oui. Donc ça sera, elle va parler des deux en fait, le contenu et le titre. Là, elle parle du contenu. Donc, ce roman a été écrit et puis il est sorti, édité pendant l'ère de Saddam Hussein. Donc, il a été écrit en 99 et puis il est sorti en 2000. Donc, il y avait un problème aussi pour l'éditer. Dar al-Adab, donc la maison de l'Adab à Beyrouth, elle a demandé de enlever des parties ou de rectifier des choses. Et donc moi j'ai refusé catégoriquement. Et puis il y a eu l'ami poète syrien Adonis qui a proposé la maison As-Saqi à Beyrouth. Donc Maï Roussoub, elle était un peu aventurière et elle a fait très vite et puis elle a sorti en 2000.
بالأخير الشيوعيين أصدقائي لأن أنا زوجة مناضل بعثي كان لاجئ سياسي، والشيوعيين أصدقائي الاثنين زعلوا مني أو غضبوا مني من بسبب هذه الرواية، فأنا لا هذا وافق ولا هذا وافق، أنا خسرانة بالطرفين ولكن أنا ربحت الرواية.
Donc moi, je suis l'épouse d'un militant bassiste, ancien militant bassiste, et puis je suis entourée par des amis communistes. Donc tout le monde m'a boudée, en fait, de côté basse et communisme, à cause de ce roman. Donc j'ai perdu de tous les côtés, mais j'ai gagné le roman lui, en soi.
L'anouane, ça peut استفزاز للذكورة العربية كيف نستخدم الغلام ونأخذ تاء التأنيث إلى الغلامة. اللغة العربية ثمينة ونفيسة وعميقة جدا في مفرداتها، في رجل ورجلة، في صبي وصبية، في غلام وغلامة. كيف تجرؤ كاتبة عربية أو عراقية أن تستخدم وتسبب شذوذ لغوي للغلامة، تأخذ يعني الغلام وتعطيه صفة الغلامة؟ الغلامة تحمل فولتية عالية من الغنج.
فولتية بمعنى الكهرباء.
كهرباء بمعنى الغواية، من بداية الطفولة حتى البلوغ.
اوكي. Donc ce titre, en fait, il était très provocateur. Donc il a surtout provoqué cette masculinité ou machisme arabe. Donc comment on peut ajouter ce suffixe ta ou a à roulam, donc qui signifie garçon en arabe. Donc c'est une langue extrêmement, avec dont le lexique est extrêmement profond, riche et tout. On peut ajouter des suffixes, mais il faut pas toucher à la sémantique profonde des lexèmes. Donc comment cette romancière irakienne cause les dérives, des dérives pour ce système linguistique arabe. Voilà. Donc pour moi, ce roulam, donc garçon, il est chargé de beaucoup de en fait moi je vais dire érotisme l'houl érosi non il fiche érosi
ok
donc beaucoup d'érotisme et de gâterie et tout ça du
érotique
oui c'est ça
oui parce qu'en fait vous ne parlez pas uniquement de torture et de politique mais aussi de relations entre femmes ce qui est assez moderne ou assez inhabituel il me semble dans la littérature arabe.
لأنك عم تحكي على علاقة بين النساء واللي هو شيء جديد بالأدب العربي.
النساء.
علاقة بين النساء. Donc relation entre femmes.
Oui.
النساء مع النساء.
Oui. Donc entre femmes et femmes. C'est ce que vous voulez dire.
ليس فقط هذا السبب.
Non. Les deux amis.
Mais c'est pas seulement ça la cause.
J'ai mal lu. Je sais pas. Les deux amis me semblaient amoureuses.
Nos صديقتين بحبوا بعضهم هي حسيت.
بحبوا بعضهم ومش هاي فقط المشكلة.
Mais c'est pas ça seulement le problème. Oui, il y a ça.
هذه included يعني هذا مش. لا هي الرواية كلها بها ألغام بها أفخاخ.
Donc il est tout le roman est miné en fait. Plein de mines partout.
Pas seulement ça, mais il y a ça aussi. في فصل مسلم التقي يعني أنا حتى لئيمة بالاختيار الأسماء مسلم التقي مناضل عقائدي اشتغل وظفت الدولة رئيس مؤسسة الرواية تحمل كثير من الفكاهة فكاهة السوداء وتحمل الكثير من السخرية. كان يهمني أتحدث عن عبوس وجوه المناضلين. دائما المناضل عابس مكفهر حزين في الوقت اللي هو دا يناضل من أجل الآخرين ولازم يفرح لازم يعني ما شفت مناضل يبتسم ولا عقائدي يبتسم ولا رجل دين يبتسم وهذا شيء يعني يلفت النظر فبالرواية استخدمت الفكاهة لأنه ما أقدر أستخدم غير الفكاهة.
Oui, en fait, il ne s'agit pas seulement de ça, mais il y a plein de mines, par exemple, il y a beaucoup de satire, de moquerie, d'ironie. Donc, dans le chapitre où je parle de Muslim al-Taqi, donc littéralement, c'est un prénom ici, mais ça veut dire le musulman
pieux.
Donc c'est un militant très dogmatique, très endoctriné, et qui a été nommé comme fonctionnaire, haut fonctionnaire à l'État. Donc il y a beaucoup de satire et d'ironie. Donc je fais surtout moquerie des visages crispés de ces militants, donc et qui ne sourient jamais. Voilà, les militants, mais aussi les hommes religieux.
يمكن الضحك الضحك لأنه الضحك قوة تدميرية كبرى تقلل من هيبة المناضل فمع العلم الإغريق كانوا يضحكون من الآلهة فأنا استغرب إنه المناضل كيف لا يضحك أو لا يبتسم أو لا يقهقه يعني كل اللي حوله يدعو للقهقه
Donc il paraît que le rire en fait contient une force de destruction, une grande force de destruction et qui atténue un peu la dignité ou le en fait oui la dignité, pas la dignité mais je veux dire l'allure de ce militant. Alors je me demande pourquoi les anciens grecs aussi ils riaient de leur dieu. Pourquoi il ne prend pas des faux rires, ces militants ? Pourtant, tout ce qui l'entoure, en fait, stimule ces rires. Tout est ridicule.
Oui, effectivement, il y a beaucoup d'ironie dans ce livre, mais vous parliez des visages crispés qui ne rient pas des militants. Ce que je trouve intéressant dans ce livre, c'est que tout, effectivement, passe par le corps. Tout ce que vous dites, c'est une écriture de la chair, une écriture du corps.
الشيء الملفت بالرواية إنه كل عم تحكي عن وجوه العبوسة أو هيك في كتير شيء بمر عبر الجسد يعني في شيء مكتوب باللحم بالجسد بهاي الرواية.
مكتوب بالأعصاب بالدم.
Avec les nerfs et le sang aussi.
هي بقيت يعني عقود النادي الأولمبي يبعد عن بيتنا دقائق و كنا نطلع نسمع ونرى العربات والشاحنات على يعني على على حول النادي وكنا نسمع صراخ النساء أو الرجال في النادي تم قتل واعتقال عشرات من الشيوعيين من المستقلين من المواطنين بالشبهة الشبهة في سيدات شاعرات مناضلات حضروا هم لسنا هم يعني حضروا بأسماء أخرى فكانت فعلا فكاهة يعني فكاهة قاتلة يعني أنه أنا أتعذب وأنا مش أنا
يعني تشابه أسماء Donc ce club olympique, en fait, il n'était pas très loin de chez nous, dans quelques minutes de chez nous. Et en fait, on entendait les véhicules tout autour de ce club et on entendait surtout les cris des femmes et des hommes. Donc beaucoup de personnes ont été détenues, torturées et tuées dans ce club. Donc des communistes, des indépendants, des citoyens ordinaires aussi. Donc il y avait des poétesses aussi. Pardon ? Il y avait des poétesses aussi qui ont été détenues pour ressemblance de nom. Donc c'est vraiment l'ironie qui tue en fait des gens qui sont torturés pour ressemblance de nom.
Mais comment, en même temps, en tant que romancière, comment on écrit sur la torture ? Comment on arrive ? On a écouté l'extrait, ça revient tout le temps dans le livre. Comment on trouve la distance ? Je ne sais pas, comment on fait ?
Tu es كروائية, qui fait que tu écris sur le تعذيب ? Qui fait que tu as cette distance pour pouvoir écrire sur le تعذيب ?
Je pense que c'est
le temps,
en fait. C'est le temps, en fait. Tu as cette distance بكل أنواعها التعذيب النفسي التعذيب العصبي والتعذيب السياسي والتعذيب الجنسي يعني في مسافة وفي خبرة أن تمرين كمرأة متزوجة وأم بأنواع من يعني كأم الولادة أيضا تعذيب يعني في في مرحلة من المراحل.
Donc c'est l'âge, l'expérience, le temps qui passe en
يعني خبرة.
Qui me distancie de tout ça en tant que femme et que mère qui a accouché. Enfin, l'accouchement en soi, c'est une torture. Donc l'expérience aussi nous donne ce recul par rapport à la torture pour la décrire.
Merci. On va justement écouter un deuxième extrait, Farida Rawaj, où il est question de la grossesse, de la narratrice.
Enceinte, par quel angle m'observer ? Je soulevais ma robe et continuais à regarder. C'était là le côté le plus intéressant de mon physique. Il n'arrêtait pas de me dépasser, on aurait dit un personnage postiche. Je passais ma main sous ma poitrine, la glissais vers ma taille et plus bas, puis remontais jusqu'au centre de mon ventre en frottant violemment. Je n'avais rien à faire de tous ces épithètes, innocence, petit bourgeon, etc. Tous ces mots gentils me gênaient beaucoup. J'aurais simplement osé me regarder à nouveau sans appréhension fétide. La nuit, allongée sur le lit, j'entendais mon souffle haletant. Alors je me rasseyais, je restais là à lutter contre l'affaiblissement, la fatigue et ce mutisme sans fin qui était devenu un de mes signes particuliers. Je n'avais pas faim de cet enfant. Ce n'était pas exactement mon enfant d'ailleurs, mais en définitive c'était le mien. J'étais tout à fait prête à aller l'enterrer avec tout ce qui me tomberait sous la main, à l'expulser hors de moi ou le tuer à l'intérieur seulement. Il avait acquis sa propre forme et pris son essor tout entier au fond de moi. Il était plus libre que moi, libre d'être lui-même. Il m'attirait à lui, pas le contraire. C'était moi qui le suivais. Il ne me quittait pas, tout comme je ne quittais pas ce monde. Ainsi, les êtres que je ne supportais pas se multipliaient autour de moi. Lui et moi, nous redevenions une multitude sans savoir où nous allions. La mort n'était pas assez proche pour que nous la laissions nous frapper. La vie n'était pas suffisamment voisine pour nous asseoir sur ses genoux et nous chanter le cantique de la mère et de l'enfant. Je passais mon temps à me jeter des regards sans jamais me tourner vers ceux qui entraient dans ma chambre ou en sortaient. Toute la famille venait me voir, sauf Shaker. Progressivement, Farhia était revenue à son seul métier. Elle trottait d'une pièce à l'autre, me faisait boire du lait entier, inspectait une énième fois d'un regard expert ce ventre qui avait encore gonflé. Elle ne posait jamais de questions ineptes. Elle n'attendait de moi qu'un hochement de tête et un sourire qui ne tardait pas à s'arrondir et à se transformer en rire. Tout au long de ces jours, ces semaines, ces mois, le rire était mon ultime réponse. Tout le monde me passait sous silence à présent, à moins qu'on ait accepté mon silence à moi, sans savoir au juste comment j'étais parvenue à abolir la parole. Je m'étais transformée en spectacle. Je cherchais à en faire une promenade ascétique anéantissant sur son chemin les errements fortuits de la langue. Ce qui est curieux, c'est que ce spectacle dont je disposais et le rire qui a fini par me céder soudoyaient les autres, visiteurs et invités, les incitant à se planter devant moi et à m'adresser à nouveau la parole. Du coup, je me voyais obligée de compenser cela par un rictus de dégoût, de refus et la plupart du temps de nausée. C'est précisément ce qui s'est passé lorsqu'elles sont venues, Najat, Sahera et Tawadoud, mes camarades de collège, les complices de mon histoire avec Badr. Je n'ai même pas eu la force de les recevoir. Elles aussi étaient amoureuses, chacune à sa façon. À Samawa, l'amour était rarement convoyé par les boîtes aux lettres et il ne s'embarrassait pas de subterfuges. Il vous ravissait de bout en bout, il était franc, cru, libre, naturel. L'être aimé était là, présent, même s'il n'éclipsait votre sommeil qu'un jour, deux jours, un mois. Cela ne durait jamais longtemps. Déjà, on se préparait à un nouvel amour, puis un autre. Les jeunes filles acceptaient les feux de paille et les jeunes hommes les aventures. Pas de mouchoir pour pleurer toutes les larmes de son corps par une après-midi torride. L'amour nocturne ne vient pas qu'au printemps, comme prétendent les gens. Nos bourdonnements s'amplifiaient en été et s'entendaient en automne. À Samaawa, l'amour secouait les bras et les jambes, les passions tombaient en pluie, frappant les oreilles à tue-tête. Elles nous inoculaient leur pollen et nos éclosions comme des fruits dans les grands arbres. C'est ainsi que la ville tenait. Elle était belle au regard, avec cette corniche le long de laquelle courait une ligne de maisons en briques à deux étages. De larges rues adjacentes s'en écartaient, filant tout droit et la divisant en quartiers. Mais cette jolie façade n'était qu'un décor qui cachait derrière lui la vraie Samaawa, avec ses maisons de terre, ses huttes de roseaux, ses jardins et ses champs. Et puis tout au bout, c'était le désert. Et au bout du désert, la prison de Nokrat al-Salman, où Bard, comme tant d'autres, avait été enfermé un jour. Pourtant, la ville restait là, à écouter en secret, solennellement, les voix des amants et des amantes. Elle nous cuisinait à petit feu. Les flammes montaient en nous, puis nous nous transformions en braise.
Merci Farida Rawatch. Donc on l'a entendu, la jeune femme est enceinte après un viol, et ça en soi c'est déjà très transgressif. Il me semble en général dans la littérature, être enceinte c'est un événement heureux, et là c'est pas du tout ça.
إنه هي هون حامل بعد اغتصاب هالحدث بحد ذاته في نوع من التجاوز بالأدب العربي على العموم لأنه الحمل لازم يترافق مع سعادة أو مع خبر كبشارة يعني كشي حلو
ما فهمت
إنه يعني إنه هي حزينة لأنه حامل فهذا في شيء تجاوز كمان بطريقة الكتاب
هي يعني هذا الطفل هذا الحمل هذا الطفل خلص صار في أحشاها ولكن هي لا تعرف ملامح هذا الرجل الوالد فعلى كل حال هو راح يكون ابنها أو بنتها فعملية الحمل عملية يعني أيضا عملية سياسية بالأخير يعني الحمل ما صار بطريقة صار بطريقة الاغتصاب وحتى الاسم لما اختارت اسم فخر فخر هو يعني الصورة المضادة لما حصل للعهر العربي اللي صار في السجون العربية ممكن يتحول إلى فخر يعني فسمت البنت فخر.
Alors, si j'interprète bien, donc en fait la transgression vient autrement. Donc la grossesse a eu lieu. Ce bébé, il est dans ses tripes, donc mais elle ne connaît pas les traits de cet homme qui a causé cette grossesse. De toutes les façons, c'est son fils, c'est son bébé. En fait, la grossesse ici, elle a toute une connotation politique. Donc le forcing, on n'a pas la volonté de créer quelque chose, mais on est obligé à le faire. Et elle a fait une subversion dans le choix du bébé quand elle l'a nommé Fakhr, fierté. Parce que ce qui se passe dans les prisons, ce n'est pas de la fierté en fait, c'est indigne. Mais elle a voulu faire une subversion de ça en nommant le bébé fierté, Fakhr.
Et comment vous avez imaginé cette jeune femme et les autres personnages aussi, si vous pouvez nous en parler, on a entendu les prénoms. Comment c'est venu ? C'est des gens réels ou vous les avez inventés ?
كيف تخيلتي هذول النساء ؟ هن نساء حقيقيات ولا انت تخيلتيهم ؟
الفنان او الكاتب بالعموم عليه ان يكتب تاريخا موازيا للتاريخ الرسمي ليس من يعني لا يملك الفنان الا ان يكتب تاريخ سرديته هو هو الذي يرى التاريخ وليس التاريخ الرسمي التاريخ الرسمي مكتوب بزيف وباعتباط وبشبركة كبيرة، فالفنان أو الكاتب لا يملك خياراً آخر إلا أن يكتب تاريخ يعني التاريخ السردي لما يراه هو.
Okay.
هو كفنان.
Okay. Donc l'artiste ou le romancier en l'occurrence donc doit écrire une histoire grand H qui est parallèle à l'histoire officielle. Donc il ne possède que sa propre narrativité ou sa narration et ce n'est pas c'est pas les narratifs officiels en fait ou les récits officiels qui sont faux, aléatoires et fabriqués la plupart du temps. Donc il doit faire sa propre histoire.
فالشخصيات بالأخير شخصيات إلى حد ما متوافرة في السردية التاريخية اللي اخترعها الفنان أو الكاتب واشتغل عليها بعملية تركيبية. ليست هناك شخصية نقية وبريئة 100%. لا يوجد في الأدب العالمي كله إنه تكتبين شخصية أكتب شخصية نسرين، هذا يعني هذا كلام غير دقيق. أنا أكتب كما أرى نسرين وليست هي نسرين.
Okay. Oui. Donc, du coup, les personnages, donc, ils existent, mais ils existent selon ma représentation à moi dans ce roman. Donc, ce sont des composites de personnages. Il n'y a pas dans la littérature un personnage pur, innocent, tel qu'il est dans la réalité. Donc, quand je vois Nesrin, je la décris comme moi je la vois et pas comme elle existe réellement.
بالعموم الشخصيات اللي موجودة بالرواية بعضها حقيقي لكن اشتغلت عليها يعني كما يشتغل الأسطى الخياط يصلح الأذيال يصلح الكم يصلح الياخة يصلح الأزرار الخياط الماهر يشتغل على شخصياته.
J'adore la terminologie de couture irakienne, donc je ne partage pas le même vocabulaire, mais j'ai compris. Alors, je suis comme un tailleur, en fait, celui qui fait des retouches pour les ourlets, les manches, les cols et tout. Donc, ce sont des personnages qui ont existé, mais moi, j'ai ajouté beaucoup de traits à ces personnages. Et j'ai fait des retouches sur ces personnages.
Mais justement, puisqu'on parle de tailleur et cette image très belle, je trouve, la façon de construire un roman, comment vous avez construit ce roman ? Parce qu'il y a, d'une part, c'est quelqu'un qui raconte au passé, alors que vous auriez pu raconter à partir de 1963, et en plus, c'est pas linéaire chronologiquement, on revient tout le temps sur certaines scènes comme ça.
كيف عملتي التركيب السردية؟ يعني أنت عم تحكي دائما بالماضي كان فيكي تكون أخذ شكل خطي الأحداث يعني لينير بشكل خطي، أنت لا كان في روحة ورجعة والأحداث ما أنا أخذ شكل خطي.
نعم أنا يعني أحب الكتابة المراوغة لا أحب الكتابة الدايركت. يعني أنا كاتبة شوية أزعج القارئ يعني مزعجة فالقارئ راح يتعب وينزعج ويساعدني في لملمة الأحداث. ليست يعني الكتابة الخطية الدايركت اللي تعرفين من الصفحات الأولى شو راح يصير بالصفحة الأخيرة ما تستهويني.
Donc moi je suis une romancière un peu, je peux dire manipulatrice, donc j'aime pas être très directe et je dérange le lecteur en fait, mais je le dérange mais il faut qu'il m'aide aussi pour contenir et ressaisir les événements. Donc c'est pour cela que je préfère pas une forme directe quand j'écris.
Est-ce que c'est pas aussi caractéristique de la littérature arabe contrairement au roman français, balzacien, où on avance étape par étape, il me semble que la littérature arabe est plus dans des circonvolutions, je sais pas.
برأيك في شيء خاصية بالأدب العربي على العموم لأنه إذا بدنا نأخذ أشكال الكتابة الروائية مثل بلزاك في عنا مرحلة وراء مرحلة متتابعة. لا بالأدب العربي منحس إنه في روح أو جاية وما في كتير شيء واضح.
إيه إحنا نحب الروح ونجي يعني.
We on aime les va et les vient en fait on aime pas le ce qui est direct.
إحنا رياضيين يعني نحب دائما نتحرك.
On est sportif on aime bouger.
نتحرك كثيرا.
Alors, il y a une scène qui revient tout le temps et qui est très étonnante. Elle se passe avant la torture et c'est une scène d'enterrement. Et tous les personnages sont là, qu'on va retrouver après dans le livre. C'est comme presque une pièce de théâtre. Ils sont tous là et on revient tout le temps sur cette scène. Parlez-nous un peu de cet enterrement.
Il y a un scène très ملفت, un peu مدهش كمان, qui est le مشهد الدفن. وقت بيصير دفن كل الشخصيات بتجتمع وكأنه هذا بيرجع بيظهر هذا المشهد ومنحسه كأنه مشهد مسرحي يعني
دفن
الدفن oui il y a un enterrement n'est-ce pas
فين الدفن
avant la torture
oui qui se passe avant la torture c'est le père d'un des pères ou alors j'ai de nouveau mal lu je sais pas le père d'un des personnages qui est mort et tout le monde se rassemble dans la maison de
وقت الأب بيموت بتجتمع كل الشخصيات بالبيت
الأب أب هدى
oui le père de هدى
voilà oui
شو كان السؤال
إنه هذا المشهد اللي هو مشهد الدفن بيجتمعوا الشخصيات وفي شيء مسرح يعني في شيء مسرحي بهذا المشهد وبيرجع المشهد ببين بالرواية
شخصيا أنا يعني فعلا يعجبني وتستهويني الأجناس بالكتابة يعني في مسرح في سينما في رسائل في سردية وثائق سردية في أقوال تعجبني ممكن أخليها في النسيج الروائي فالعمل ما يعود جنس واحد في يعني مجموعة من الأجناس الإبداعية
Ce que j'apprécie en fait dans l'écriture littéraire, c'est les genres. Et moi, j'aime mélanger les genres. Donc, théâtre, cinéma et correspondance, pastorale, on dit, ou correspondance. Donc, le genre de faire des correspondances avec les gens. La documentation qui font, la documentation qui fait récit, même des citations, des citations des gens que je fais introduire dans le tissu du roman. Donc, moi, j'aime les genres et mélanger les genres. C'est pour répondre au côté théâtral de cette scène.
Oui, effectivement. Et l'écriture elle-même change parce qu'il y a des moments très lyriques, très poétiques et des moments très tranchants.
وهذا الشيء كمان بنشوفه انه اوقات
السياسة
تمام لا انه في شيء غنائي اوقات وفي شيء كثير قاسي
صحيح صحيح يعني مش معقول كمان كل العراق
On peut pas, oui, parce que l'Irak n'est pas que pure brutalité et dureté. Il y a aussi un peu de poétique en Irak. Donc.
Non, mais comment
c'est normal.
Oui, c'est normal. Mais comment vous écrivez ? Je veux dire, un livre comme ça, il s'écrit du début à la fin, ou est-ce que c'est des scènes que vous mettez ensemble après coup ?
كيف بتكتبي من الأول للأخير شطحة واحدة ولا بتكتبي مشاهد وبعدين تعملين لهم مونتاج أو تركيب بالأخير
الغلامة أسميها معذبتي
أوكي.
فعذبتني كثيرا وفي فصول كنت أشتغل عليها 16 مرة بدون مبالغة فبهذا المعنى أنه أشتغل فصل فصل يعني فصل ينتهي أنا عارفة ماذا سيأتي بالفصل الثاني ولكن يجب أن ينتهي بشكل متقن بشكل جيد
بشكل تتابعي
اي
اوكي نعم. بالترتيب
نعم
اوكي Donc moi j'appelle en fait la garçonne vraiment ma tortionnaire parce qu'elle m'a torturé ce roman dans l'écriture. Donc il y a des chapitres où j'ai sur lesquels j'ai relu 16 fois parfois. Mais j'écris en ordre. Donc il faut qu'un en fait un chapitre fini pour commencer un autre chapitre. C'est voilà donc c'est linéaire l'écriture mais l'écriture pas les événements. Ouais.
Parlez-nous des personnages de femmes. Alors, ces trois amies, et notamment, il y en a une qui est très belle, qui est parfaite, qui est la plus intelligente, et ça va très mal finir pour elle. Racontez-nous un peu son histoire.
حكينا شوي عن الشخصيات النسائية هالثلاث أصدقاء واحدة منهم كتير حلوة كتير فهيمة وذكية وحياتها بتنتهي
شخصية هجران لأن الشخصية الثانية إلى الكلمة الأخيرة أنا أحس إنه هجران تتمسك بيدي أن لا أوصلها للجنون يعني هاي الشخصية أجمل شخصية كتبتها في حياتي الأدبية وعذبتني وعذبتها أيضا في الكتابة.
Donc je parlais du personnage de Hujran. En fait, jusqu'au dernier mot du roman, j'avais l'impression que Hujran me tient par la main et me suppliait de ne pas l'interner à la fin et dans l'asile psychiatrique. Voilà, donc il m'a torturée. Et c'est pas. En fait, c'est le personnage le plus intéressant que j'ai écrit dans ma carrière littéraire.
كانت جميلة مثقفة. علمية تعشق رامي الغدار إنه هو موجود يكفي يعني فهو يعني بقسوة وفجور ذهب وتزوج امرأة ثانية قريبة له فهي فعلا شخصية حقيقية بالضبط حقيقية وكانت جارتي وجنت فعلا وكانت من أجمل فتيات الحي.
Alors on découvre que Hujran était réelle. Oui. Donc c'était ma voisine, donc elle était dans mon quartier et elle était parmi les plus belles femmes de ce quartier. Et elle était très aussi, elle était éduquée, cultivée et tout, et donc elle était passionnée par ce Rami infidèle. Mais elle s'en fichait un peu, donc il est là et elle est contente, donc elle veut pas plus. Mais lui, avec beaucoup de froideur, il s'est marié à une autre femme. Elle a perdu la tête à la fin. Et c'était ma voisine dans le quartier, donc c'est un personnage réel.
Et il est beaucoup question d'amour, effectivement, dans ce roman. Enfin, il y a la torture, il y a la politique, il y a toutes sortes de choses. Mais la préoccupation principale des gens, c'est quand même être amoureux.
Non ? Il y a beaucoup de l'amour dans cette histoire. Il y a beaucoup de l'amour, il y a beaucoup de l'amour, mais les gens... Pourquoi vous êtes énervée ? C'est très bien.
Je ne suis pas énervée. Non, mais c'est intéressant de voir que... Quoi qu'il se passe dans le pays, les discussions entre les amis, c'est toujours essayer de se souvenir. Est-ce qu'il a été amoureux de moi ? Des questions comme ça.
Non, mais le fait que tout ce qui se passe dans le pays, les gens qui sont en train de parler de moi, est-ce qu'il m'aime ou est-ce qu'il ne m'aime pas ?
Oui, parce que, à la fin, il y a un chanteur libanais grand, qui s'appelle Bassam Hadjar. Il a... ديوان اسمه مهن القسوة كل شيء في العراق عندنا مهن للقسوة يعني حتى الحب عندنا بقسوة الكارير مالت يعني الشخصية فيها قسوة قسوة يعني مرات غير مبررة فبالأخير إذا تحدثوا عن الحب لأنه خارج هذا النطاق في قسوة لا تحتمل
Bon, alors moi, ça me rappelle un peu le recueil du poète libanais Bassam Hadjar, Les métiers de la violence ou les métiers de la dureté, en fait, de la brutalité, tout ça. En fait, en Irak, il existe une grande violence partout, dans tout, en fait, dans tous les aspects de la vie quotidienne. Donc, heureusement, on peut échapper à ça dans l'amour, un petit peu. Parce que c'est insupportable autrement.
Alors, on l'a entendu dans l'extrait qu'on a écouté. Quand elle est enceinte, la narratrice repart dans le sud, dans une ville du sud de l'Irak, d'où est originaire sa famille. Pourquoi est-ce que vous l'avez déplacée dans le sud, dans cette ville-là ?
وتحبل البطل واحدة من الشخصيات بتروح على جنوب العراق. ليش خليتيها إنه تروح على جنوب؟ ليش هالموقع الجغرافي جنوب العراق؟
هي من السماوة مدينة. أنا عشت في السماوة فترة، وكان والدي يعمل في سلك الشرطة، فأنا أعرف السماوة. فيجب أن نتحدث عن أمكنة لم تبتر، على الأقل بالنسبة للذاكرة
لم
تبتر. فالكاتب يعني مثلا أنا ما أعرف العمارة، ما أعرف البصرة، لم أعش بها. فالسماوة عشت بها، عشت فيها سنة ودرست في الأول المتوسط، فأستطيع أن أتحدث عن أمكنتها وناسها وأنهرها والفرات والمخازن والحوانيت. فكان لي حق أن أذهب إلى السماوة وليس إلى مكان آخر.
Donc c'était un peu légitime de choisir justement, en fait, parce que moi j'y ai vécu un peu. Mon père était dans le corps policier, il a travaillé dans cette ville, donc je l'ai connu. J'ai connu ces rivières, j'ai connu le Frat, j'ai connu les boutiques, j'ai connu les paysages et tout. Donc il est plus légitime de parler des endroits qui ne sont pas amputés de la mémoire, en fait, comme d'autres. Et par ailleurs, moi je ne connais pas le Bosra, je ne connais pas l'Amara, je ne sais pas... Quel est l'équivalent français de l'Amara, une ville du sud?
يعني لم أذهب لغرض مذهبي يعني مثلا أو ديني.
Donc c'est pas du tout pour des raisons confessionnelles, mais je sais pas si Sylvie est consciente de, parce que elle est pas consciente de ça. Bosra c'est plutôt chiite en fait, donc c'est donc il n'en est rien.
Oui, mais justement, enfin ça c'était une question que j'avais qui mais il m'a semblé, c'est intéressant parce que vous montrez un Irak, peut-être on peut dire multiconfessionnel et multiculturel, parce qu'il est aussi question d'ancêtres turcs, des Kurdes, enfin, on voit quand même un pays complexe à travers ce livre.
Hijran ou ma Turquie.
Oui, donc la mère de Hijran est turque. Donc, on peut dire que quand même, on voit dans les riwayat, le tanawwu et le ghina de l'Irak, ethnien ou taïfien.
Dans les styles vestimentaires, dans les ethnies et tout.
Non, mais c'est un hasard où il y avait une volonté de montrer que l'Irak est un pays multiple.
Ou بالصدفة ولا كان في إرادة تبين غينا العراق؟
هو يعني هو بين هو صدفة إنه اختاريت هجران. هجران أمها تركية من يعني من القفقاس، ورجعت يعني سكنت تركيا وتزوجت عربي. فكان حلو إنه يعني هذا التنوع بالأجناس أيضا البشرية، مش بس الأجناس الكتابية.
Oui. Donc bon, en fait, c'est les deux en même temps, parce que par hasard, Hijran est là, la mère caucasienne d'origine, et elle s'est mariée avec un arabe en Irak. Donc ça donnait un style, ça donnait aussi un mélange, pas seulement de genre, comme je viens de dire, mais aussi de style humain ou démographique.
أتراك، يزيديين، سنة، شيعة، مسيحيين، آشوريين، عرب. ففي هذا الغنى وهذا العمق اللي مع الأسف وصلنا نتقاتل.
Donc, et puis en Irak, en fait, l'Irak est richissime de cette variété, de cette multiplicité d'ethnies, de religions. On a des Assyriens, on a des Kurdes, on a des Arabes, on a des Sinites, des Juifs, des Chrétiens et tout ça. Des Turkmanes aussi.
Et il est aussi question des Juifs d'Irak qui sont tous partis, qui ont tous quitté Bagdad. Il y a juste une phrase comme ça dans le roman.
كمان حكيتي عن يهود البغداد اللي طلعوا يعني هيك حكيتي سطر بال.
الرواية الأولى النفتاليين كانت الشخصية اليهودية كانت حاضرة ب يعني بطفولة غائمة، لأنه كانت جارتي راشيل خياطة، وكنا نأكل عندها، يعني كنا نفتح البردة الستارة البيت وندخل للأكل، وكنا نلعب مع الأولاد. كانت ما كانت اليهودية أمر خطير، ويعني هي كانت راشيل وكانت جيرانه، وكان الدين بالنسبة إن في انفتاح هائل في البيت في الشارع في المدرسة، في يعني اليهودي والمسيحي والمسلم كليتنا يعني مش هذا الموضوع إطلاقا.
oui.
مش الدين.
oui. En fait, dans mon premier roman, Naphtaline, le personnage juif était plus présent. Et ça revient à mes mémoires d'enfance, en fait, où on jouait avec les enfants de Rachel, la couturière du quartier. Donc, c'était une voisine. Il y avait, en fait, on passait à leur maison juste par un petit rideau. On mange chez eux et puis on joue ensemble et tout. Donc, la judaïté n'était pas dangereuse en Irak et il n'était pas question de religion en fait en Irak, ça posait pas problème, c'est pas ça l'affaire en fait.
Ouais. J'ai l'impression c'est ma lecture, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'infiniment désespéré dans ce roman parce que tout le monde est parti ou tout le monde est mort, tout est terminé, il y a quelque chose de très désespéré.
ما بعرف هذا انطباعي من قراءتي، بس انه في شيء كثير متشائم او حزين، في شيء من الافول يعني الناس بتروح وبتغادر وبتموت، وفي شيء حزين متشائم.
في شيء بالحياه هو هيك.
وي اون في سي كوم سا ان فات اون ريتي سي كوم سا.
ميرسي عليا ممدو. اون فا ايكوتي ان دانيير اكستري بوتيتر فريدا رواج.
Le désir que j'avais pour elle remontait à une époque lointaine. Mais il ne se répandait en moi que lorsqu'elle n'était plus devant mes yeux, quand j'entrais dans la cuisine ou que je me cachais dans les autres pièces. J'avais l'impression que si je me mettais simplement à la caresser, elle se disloquerait entièrement entre mes bras et ensuite, ni moi ni Rami ne pourrions la ramener à la vie. Je n'avais pas envie de coucher avec elle comme avec Houda. Non. C'était autre chose. L'âme humaine me devenait hermétique et mystérieuse. Elle n'avait pas une allure de fille dévergondée et provocante. Ce n'était pas non plus une enfant pour que je puisse prendre sa tête dans ma paume en lui peignant les cheveux. Que lui voulaient donc les jeunes étudiants de l'université, les professeurs de son département, les hommes aux villas et aux voitures de luxe et ce monsieur Rami? Quand elle l'attendait à l'entrée du jardin intérieur, elle se mettait à déclamer des prières nocturnes. Sa voix se gonflait et sortait de sa cachette. « Dieu, ramène-moi ce marin perfide et dépravé. Fais revenir le croissant de lune dans la moiteur du ciel et la tristesse dans le cœur blessé. » Elle marchait dans son rêve, allant et venant, parcourant des milliers de kilomètres. Elle brûlait de jalousie pour les femmes qui l'entouraient, grisées par l'odeur de la victorieuse et de l'héroïsme palpitant. Dans le jardin, donc, elle attendait ce chef adulé, toujours retenu par des rendez-vous et des réunions du parti, dont il ne revenait que tard dans la nuit. Elle disait « Merci, parce qu'il est toujours absent afin que je reste à l'attendre. » Merci parce qu'il est là avec tout ce manque. Elle ne le pleurait pas. Elle se recousait puis se défaisait à nouveau jusqu'à ce qu'elle le revoie. Elle plantait son aiguille dans son corps pour recoudre sa poitrine et son foie avant de monter vers sa gorge. Les douleurs n'étaient pas encore là. Personne ne sait au juste quand tout cela a commencé. Tout le temps qu'il disparaissait, elle continuait à le chercher, même si la nuit il venait dans sa chambre sans demander la permission. Elle restait là à manger les dredons, le coton de l'oreiller et le sel du carrelage, jusqu'à le revoir surgir devant elle. Mais à vrai dire, elle ne le voyait pas. Quand elle le faisait entrer en cachette dans sa chambre à l'étage, elle insistait pour qu'il tire les rideaux et qu'il éteigne la lampe de chevet, la couvre bien et l'embrasse sur les paupières au moment où elle sombrait dans le sommeil. Tard dans la nuit, après que tout le monde s'était endormi dans les deux maisons voisines, elle lui faisait un signe de la tête, alors il la poussait et se glissait contre elle. Elle regardait sans savoir ce qu'elle ferait s'il avançait la main vers tel ou tel endroit. Elle savait qu'elle était amoureuse de lui, c'était tout. Or, en amour, on pouvait tout accepter. Le sang montait à la tête de Rami sans qu'il ne l'avoue, car parfois tout était fini avant de commencer. Il n'avait plus qu'à éteindre la lampe et la frotter sous lui. Les dents de Hijran claquaient et son corps tremblait, mais elle était trop timide pour émettre un son. Houda disait, on n'entendait pas sa voix. Ma grand-mère se demandait si elle en avait une. Elle parlait, bien sûr, mais quand elle commençait, elle se sentait tout de suite en mauvais passe, alors elle s'arrêtait. Elle ne savait pas finir une phrase. Ses propos étaient toujours tronqués et incompréhensibles. Les mots tombaient de sa bouche goutte à goutte et confus, comme si tout se passait derrière elle et que les choses étaient sans cesse pour elle le même fardeau dont elle ne savait quoi faire. C'est à peine si elle voyait les autres. Non, elle n'était pas prétentieuse, au contraire, c'est la pudeur qui lui donnait cet air. Une pudeur indescriptible. Ah, mais devant Rami, elle était... Écoute, Sabiha, je ne sais pas si elle a couché avec lui ou pas. Merci.
Merci, Farida Rawad. Vous nous avez dit, au tout début, vous nous avez dit que vous avez été, le livre avait été censuré à sa sortie. C'est toujours le cas ou on peut le lire dans certains pays arabes? Comment ça se passe?
Le premier, c'est que c'est un peu plus important. Le seul qui est un peu plus important, c'est que c'est un peu plus important. Oui, c'est toujours le cas. Et la maison, en fait, la maison d'édition ne gagne rien de cette édition, en fait. C'était une aventure. Et la maison de l'Adab aussi l'a réédité après Saqi. Et là aussi, c'était une aventure. Donc, ils n'ont pas gagné. Ils ont perdu, en fait, financièrement.
Mais
il est piraté, en fait, en
Irak. Oui. Oui,
donc sans respecter les droits de l'auteur et tout.
Donc
j'étais informée, donc des étudiants en Irak m'ont pris des photos que de cette version-là, donc elle est exacte comme la version éditée. Et tous mes romans, en fait, sont piratés en Irak.
Merci, Aliam Abdou.
Merci
à vous pour votre traduction. Merci d'être là.